S&P 500, nouveau record historique établi la semaine dernière. La tech US ne lâche rien. Secteur technologique US et toutes ces industries, les semi-conducteurs et tout le reste. Pourquoi tant de résilience, chers amis? Bienvenue à cette nouvelle édition du Top Gun. Je suis content car, souvenez-vous, début juillet, je vous ai proposé une vidéo en vous disant que le top final était encore devant nous, en m'appuyant sur des éléments fondamentaux de valorisation. Et donc, le S&P 500 a atteint les 7800 points. Peut-être qu'il est moment d'être curieux et de revenir voir quels étaient les objectifs fondamentaux, justement, qui étaient envisageables en termes de valorisation début juillet, alors que le marché n'était qu'autour des 7200, 7400. Maintenant, qu'en est-il, chers amis? On va faire un point sur tout ça. Mais la tech US, pourquoi? Pourquoi tant de résilience? Alors après, souvenez-vous, quel était le mindset général du Top Gun, qui consiste à dire que toutes les corrections court terme, que ce soit quelques séances ou parfois quelques semaines, sont des opportunités parce que les fondamentaux sont bons. Et donc, oui, la semaine dernière, après avoir corrigé de mi-juin à fin juillet, le secteur tech US, mais aussi le secteur tech en Asie, a retrouvé le sens de sa tendance haussière de fond. Chers amis, dans cette nouvelle édition du Top Gun, nous allons faire plein de choses. Tout d'abord, première partie, S&P 500, donc nouveau record historique. On va revenir un peu sur ses objectifs fondamentaux. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, on va s'en approcher. Bon. Deuxième partie, secteur tech, de quoi parlons-nous? Je vous refais un topo sur qu'est-ce que c'est que le secteur de la technologie. En fait, plus précisément, on parle de deux secteurs US, Communication Services et le secteur technologique lui-même a plusieurs industries. Donc, je vous refais un point là-dessus. Troisième partie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Le S&P 500 n'est pas cher au regard de ses bénéfices prospectifs. Le S&P 500 n'est pas cher au regard des fondamentaux prospectifs. C'est incroyable. La valorisation est même à dropper et revenue à sa moyenne des 10 dernières années. Alors, quoi qu'en dise cette armée de collapsologues que j'affronte, bien, pour le moment, effectivement, toutes les corrections court terme ont été payées. Et puis, moi, j'ai encore envie de vous dire que, par rapport aux éléments que j'ai encore à ma disposition, oui, les prochaines corrections court terme seront encore des opportunités. On n'est toujours pas au bout du bout. Donc, je refais un gros point valo, un gros point sur les résultats. Ensuite, point technique sur le secteur de la tech, le SOX, les semi-conducteurs et le S&P 500. Je vais vous montrer que le top 12 des secteurs combinés tech et communication services sont encore très raisonnables en termes de valorisation. Ensuite, on va parler un peu des GAFAM, qui avaient tous des configurations encore largement haussières, bien construites, et qui sont repartis sur certains supports. On a tellement parlé des semi-conducteurs qu'on oublie les GAFAM. Hein. Dans les GAFAM, Nvidia fait du semi, mais le reste, c'est beaucoup d'autres activités. Ensuite, faut-il enfin revenir à l'achat sur le secteur des logiciels? Je pense qu'un bottom a été trouvé, je vous le dis moi. Sur Adobe, sur Salesforce, vous allez voir pour des raisons fondamentales et techniques, un bottom a enfin été trouvé après 4 années de tendance baissière sur le secteur des logiciels. Un point sur les semi-conducteurs, le Kospi. Le Kospi a-t-il trouvé son point bas après 45% de correction en l'espace de 2 mois, le Kospi, la Corée du Sud, avec Samsung et SK Hynix. Et enfin, un mot sur le quantique, parce que je suis très content. Rappelez-vous, je vous ai proposé, VR, le Vincent Gade, là, il est trop content. Non, c'est pas ça. Je vous ai proposé il y a quelques semaines une vidéo avec 7 titres qui m'intéressaient, dont Yongqiu. Eh bien, il a rebondi exactement sur le support qui m'intéressait. Donc, pour dire un mot sur Yongqiu, allez, c'est parti. Nouvelle édition du Top Gun, Tech US. Pourquoi tant de résilience?
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Une tendance ne se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Voilà une expression que j'ai créée et qui s'adapte parfaitement au secteur de la tech US, dont les fondamentaux sont bons, et même pas que la tech US, la tech en Asie aussi, la tech en Europe. Et par conséquent, toutes les corrections court terme sont des opportunités. S&P 500, nouveau record historique. La semaine dernière, en accord avec les fondamentaux, le plan je viens de vous le donner, on passe directement au vif du sujet. S&P 500, S&P 500, S&P 500. Chers amis, oui, le S&P 500 fait donc un nouveau record historique. Il tenait de toute façon qu'il s'agisse de l'horizon de temps mensuel, hebdomadaire ou daily, tous les supports techniques étaient préservés. S&P 500, nouveau record historique. Donc, je vais d'abord revenir sur une vidéo que je vous ai proposée au début du mois de juillet. Alors, je vais pas, j'ai juste repris un slide de cette vidéo, car en fait, ce slide donc proposait, quand le S&P 500 était autour des 7004, 7005, je crois, je sais plus exactement, eh bien, en tout cas, qu'il ne faisait pas de nouveau record historique, c'est-à-dire quand le S&P 500 était englué dans ce trading range, eh bien, c'était même pas technique, hein. D'un point de vue fondamental, nous pouvions envisager donc que le S&P 500 allait faire de nouveaux records historiques, que le top final était encore devant nous. C'était le titre de cette vidéo que je vous ai proposé. Et donc, voici le slide à l'époque. Donc, c'était ce que j'avais qualifié en plus d'objectifs haussiers fondamentaux raisonnables. Raisonnables, c'est-à-dire même pas une bulle. C'est pourquoi je me mets ici en porte-à-faux des collapsologues qui répètent depuis des années que ce marché est en bulle, alors que d'un point de vue fondamental, cela n'a strictement rien à voir avec ce que fut la bulle dot-com de 2000. Ne serait-ce que parce que ça fait du cash. Ça ne faisait pas du cash il y a 26 ans. Il suffisait de mettre .com devant le nom de son entreprise pour faire croire qu'on allait gagner beaucoup d'argent, alors que la plupart d'entre elles ont toutes simplement disparu. Donc, j'avais proposé à ce moment-là, en réalité en projetant des éléments de valorisation, c'est-à-dire simplement, j'avais pris le prix du S&P 500 et mon raisonnement était de dire quelle serait la valeur du S&P 500 si en termes de valorisation, le marché revenait à son record. Parce que le S&P 500, dans son trading range, le S&P 500, dans cette phase latérale qu'il a construit au-dessus des 7200 points, pardon, le S&P 500, dans cette phase latérale qu'il a construit au-dessus des 7200 points, n'était pas son record de valorisation. Donc l'idée, c'était simplement, quelle est sa valeur si on revient simplement au record de valo. J'avais donc, à ce moment-là, pris deux critères, essentiellement le cap ratio PE Schiller et PE Forward, et ça me donnait donc cet intervalle 8000-8200 points. 8000-8200 points, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes à 7800 points. Donc, du chemin a été parcouru depuis les 7002, certes, mais il semble donc qu'il reste encore de l'upside. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'être permaboule. Moi, je serais par contre, attention, le premier à vous alerter. J'ai déjà commencé à le faire avec des éléments de participation, mais vous expliquant que ça ne donnait pas le point au final. Je serais le premier à vous dire, attention, lorsque d'un point de vue de la valo, ça va commencer à piquer. Alors, on va refaire le point sur tout ça, justement, parce que est-ce que maintenant, au prix actuel, ça pique en termes de valo? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, donc, nouveau record historique du S&P 500. Et parce que la tech, la fameuse tech, qu'à chaque correction court terme, la secte de la collapsologie enterre. Qu'à chaque correction court terme, la secte de la collapsologie, donc ces messieurs-dames qui se lèvent le matin, qui ont une vie tellement triste, qu'ils ont besoin de l'effondrement pour être heureux. C'est un mécanisme, c'est une personnalité, un mécanisme de pensée étrange. Mais de quoi parlons-nous? Alors, lorsqu'on parle de la tech, en fait, on parle de secteur. On ne parle pas du secteur tech seulement. En réalité, le S&P 500, comme vous le savez, ou comme vous ne savez pas du coup, peut-être, le S&P 500 est divisé en 11 super secteurs. Les 500 actions du S&P 500 se trouvent dans ces 11 secteurs. Lorsqu'on parle en fait de la tech et de toutes ces industries, on fait référence au secteur Information Technology et au secteur Communication Services. On fait référence au secteur Information Technology et au secteur Communication Services. Ce sont les deux secteurs les plus importants et vous avez sous les yeux, eh bien, et au passage, je vais chercher un autre site que j'ai pas eu le temps de vous charger. Vous avez sous les yeux donc les composantes de ces deux secteurs. Vous avez sous les yeux, eh bien, le nombre d'actions que vous avez donc au sein de ces secteurs. Communication Services, vous avez 21 titres et ça pèse 10% de la valeur de l'indice. Information Technology, vous avez 73 titres et ça représente 36% du calcul de l'indice. Donc c'est quasiment moitié-moitié. Et à l'intérieur, par exemple, du secteur de la tech, vous avez, eh bien, un certain nombre d'industries, les hardware, computer hardware, electronic components, semi-conducteurs, software, etc., le solaire, scientific and technical instrument. Voilà, donc, et de la même façon, si je vais à l'intérieur du secteur communication services, donc le secteur communication services, à l'intérieur du secteur communication services, vous allez retrouver internet content and information, entertainment, broadcasting, etc., etc. Donc, lorsque l'on parle du secteur de la tech, eh bien, cette fameuse tech US dont la tendance se relance plusieurs fois, tant que les fondamentaux sont bons, on fait référence à ces deux super secteurs et on fait référence à toutes ces industries. Et donc, l'idée, c'est de se dire que tant que les fondamentaux prospectifs sont bons, eh bien, tant que les fondamentaux prospectifs sont bons, toutes les corrections court terme sont des opportunités. Alors, sur ce slide, je vous ai fait un rapide résumé, un slide que je vous avais déjà montré, mais que j'ai mis à jour, des industries et des principales entreprises donc, qui composent ces secteurs de la technologie et communication services, avec donc quatre grandes industries, avec des sous-industries bien sûr, quatre grandes industries, les fameux semi-conducteurs qui ont eu une hausse verticale entre le printemps 2025 et début juin dernier, qui ont corrigé à court terme, j'y viens tout à l'heure sur le plan technique, et cette correction court terme a été une opportunité, les logiciels. Alors là, ça va être intéressant parce que ça fait 4 ans que c'est en tendance baissière. Par contre, eux, c'est peut-être le moment de se repositionner. Internet et les plateformes et le quantique. Le quantique, je vous ai récemment fait une vidéo spéciale dessus et j'estime notamment que Yongxiu est intéressant. Je vais donc en redire un mot. Mais le quantique, c'est à part. Donc, première chose, S&P 500. Donc, le S&P 500 fait un nouveau record historique. Ça y est, on peut dire, mais pourquoi là, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Les amis, écoutez, je vais vous prendre ce graphique et vous dire que bah, là, c'était pas cher, 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 et bah, vous allez me taper dessus, hein, vous allez me taper dessus. Alors attention, il y aura, comme d'habitude, je le répète, par avance, hein, parce que dès qu'il y a une séance de baisse, on me dit, ah bah, regarde, il y aura toujours des corrections court terme. La seule chose, c'est que correction court terme, ça paye, 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 correction court terme. Et peu importe que ça fasse ça, correction court terme, ça paiera. Alors pourquoi ? Je dis pas ça parce que j'ai envie que ça paye. Je dis ça parce que, eh bien, regardez ça. Le PE forward, accrochez-vous. Alors que le S&P 500 fait un nouveau record historique, son PE forward s'est effondré. Alors que le S&P 500 fait un nouveau record historique, la valeur du S&P 500 en rapport à ses bénéfices futurs a droppé à sa moyenne des 10 dernières années. Imaginez, nous sommes revenus un PE forward de 19, alors que le S&P 500 est à 7800 points. Alors du coup, imaginez simplement que le PE forward remonte à 23. Je ne parle pas d'un nouveau record de Valo, je dis simplement, imaginez que le PE forward revienne simplement à son record. C'est quoi la valeur du S&P 500 ? Vous faites le delta entre 23 et 19, et vous multipliez ça par la valeur du S&P 500. Actuel. Alors, moi, si vous voulez, si là, le S&P 500 a fait de nouveaux records historiques, c'est fait, c'est acté, point final. Si, au même moment, je constatais une explosion haussière du PE forward, si j'avais eu un PE forward ici, au-delà de tous les excès possibles, là, je vous aurais fait une vidéo en disant « alerte écarlate, rouge écarlate, c'est une bulle ». Mais là, le S&P 500 fait un nouveau record et sa valo drop. C'est parce qu'il y a du tangible. C'est parce que les résultats du T2 ont été encore incroyables. Les résultats du T2 ont été incroyables. Et alors, il n'y a pas que la tech aussi, il y a le secteur de l'énergie, mais il y a d'autres secteurs. Ils sont juste dinguissimes, hein, regardez. En rapport par rapport aux autres trimestres, ça a encore sorti des énormes résultats du T2. Et ici, donc, vous avez un bilan secteur par secteur, l'énergie, communication services, consommation discrétionnaire, la tech. Ça envoie du 135%, 109%. Et ça, c'est du réalisé. C'est du tangible. Alors, au T1, tout le monde en doutait, mais non, ils n'y arriveront jamais, ils ont encore réussi. Là, les perspectives de profit sont encore massives et vous avez encore une armée de personnes pour dire, mais non, ça ne le fera pas cette fois-ci. Ah bien, à un moment ou à un autre, ils auront raison. Si vous voulez, quand on répète chaque trimestre que ça va s'effondrer, on finit par avoir raison. Parce qu'il y aura des étapes de bear market. Moi, je pense que c'est quand même mieux de répéter que les corrections court terme sont des opportunités jusqu'à ce qu'on arrive vraiment un jour à un seuil de valorisation où là, bon, d'accord, il faut arrêter les bêtises. Non, mais moi, c'est, vous savez, voilà, quand je vois ça, hein, quand, alors ça, c'est le PE forward. Alors par contre, effectivement, en termes de le PE chiller, le cap ratio, ça, vous savez que je vous l'ai déjà montré. Moi, le jour où le cap ratio, donc le PE chiller, le PE forward compare le prix du marché aux bénéfices futurs. Le cap ratio, c'est le prix du marché aux bénéfices passés. Donc déjà, c'est pas du bullshit, c'est réalisé. Et c'est retraité de l'inflation. Le jour où le cap ratio ou PE chiller, là, c'est la version normalisée en Z-score, et ça, c'est la version classique. Quand il reviendra au contact de son record de décembre 99, là, d'accord, peut-être faire attention. Mais bon, donc voilà, tout ça est assez dingue, est assez fou, et ce qui explique donc pourquoi tant de résilience. Bah, la raison, c'est la réalité des profits et aussi les profits prospectifs. Alors, secteur tech, SOX et S&P 500, le message de l'analyse technique, le SOX étant l'indice de l'industrie des semi-conducteurs. C'est pourquoi, en première partie de vidéo, j'ai voulu vous rappeler qu'est-ce qu'on retrouvait au sein des secteurs technologie et communication services. On retrouve des industries, et le SOX est une industrie. Alors, pourquoi le mettre à part? Parce que c'est celle qui rassemble les plus gros profits réalisés et prospectifs. Les SOX, les semi-conducteurs, les puces, les GPU IA, les puces IA, la mémoire vive IA, etc., etc. Tout le hardware IA. Donc, le message de l'analyse technique, bah écoutez, c'est baissier et ça va s'effondrer, krach boursier en vue, moins 90%. Je plaisante, bien sûr. Le message de l'analyse technique, bah, c'est qu'au stade actuel, les supports tiennent. Donc, rappelez-vous, depuis ces derniers mois, je vous expliquais donc que tant qu'on tenait la Tenkan Weekly du système Ishimoku, bah, c'était bullish et que potentiellement, ça, c'était un petit range de continuation. Bah, il semble que ce soit le cas. En données journalières, je vous expliquais que tant qu'on tient le Kumo Daily, c'est bullish. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a eu une entrée dans le Kumo immédiatement invalidée par une structure en bullish engulfing. Regardez, les deux structures, c'est copier-coller. La structure qui associe la bougie du 10 juin et du 11 juin avec la structure qui associe la bougie du 29 juillet et du 30 juillet. Bullish engulfing, terminologie japonaise. Je vous invite à reprendre toutes vos configurations qui associent les bougies japonaises, et notamment la deux bougies japonaises. Bullish engulfing, on ressort du Kumo, on fait la même poussée. Et donc là, nouveau record historique. Nouveau record historique. Bon. Donc voilà, moi je dis que tant qu'aucun support ne cède sur les horizons de temps mensuels, weekly et daily, c'est bullish. Donc je vous disais que tant qu'en hebdo, on était au-dessus de 7100 points, c'était bullish. Bah, ça le reste. Alors maintenant, je vais serrer. Hein. Tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, donc tant qu'on est au-dessus des en clôture hebdomadaire des 7500 points, c'est bullish. Et donc en hebdo, tant qu'on est au-dessus des 7500, c'est bullish. Et à court terme, donc l'hebdo, c'est le moyen terme. Et à court terme, tant qu'on est au-dessus des 7600 points, c'est bullish. Voilà. Alors, par contre, si on réintègre ça, bah c'est que là, c'est qu'on va faire à nouveau une correction court terme. Donc ensuite, le secteur tech et le SOX. Donc le SOX, ben écoutez, le SOX, c'est intéressant parce que le SOX, donc en données hebdomadaires pour l'instant, il tient sa Kijun Weekly. Donc ça, c'était vraiment le support à tenir. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de consolidation depuis une petite divergence baissière ici. Le RSI Weekly est revenu sur le niveau des 50 ici. C'est une tendance haussière bien construite. Et donc, bah, c'est haussier tant qu'on tient la Kijun. Donc, c'est le niveau des 10 800 points. Et donc, il y a eu une correction de 28%. Une correction de 28% entre mi-juin et fin juillet. Et cette correction était une opportunité de se placer. Idem le secteur tech. Alors, lui, il y a RAS. C'est impulsion, correction, impulsion. Et là, c'était un petit range de continuation. C'est le message que je vous disais ces dernières semaines, c'est que c'était haussier tant qu'on tenait les 7000 points. Et là, on le voit bien. Donc, la ligne noire ici, c'est la lagging span. C'est-à-dire que c'est le marché actuel translaté dans le passé, mais exprimé en cours de clôture. Alors moi, j'aime bien, ça permet d'avoir sous les yeux au même moment les bougies japonaises et le cours de clôture. Et on voit très bien que ça, c'est un petit range de continuation, ce qu'on appelle une structure en drapeau, en analyse chartiste. Et voilà, bah, on est sorti par le haut. Donc, il y a eu une correction de 14% et la tendance haussière a repris. Voilà. Alors, cette tendance haussière à la reprise, oui, il y avait la structure technique, mais c'est parce qu'il y a eu les résultats des GAFAM qui ont été solides. Voilà. C'est bien sûr qu'il y a des fondamentales, il y a du fondamental derrière, mais c'est pourquoi d'ailleurs j'ai commencé cette vidéo par vous montrer le fondamental, les résultats, la valo. Et moi, tant que j'ai des perspectives de profit qui sont solides, tant que j'ai une valo qui est raisonnable, je continuerai de dire que que les phases court terme de temporisation sont les opportunités. Si en plus il y a des structures un peu techniques classiques, par exemple ici c'est un petit drapeau sur le secteur de la tech, ça valide encore plus si vous voulez. Donc c'est un ensemble d'éléments comme ça qui avancent ensemble. Alors justement là je me suis amusé à faire quoi ? Je vous ai mis dans ce tableau le top 12 en termes de market cap des secteurs tech, enfin information technology et communication services. Parce que pour moi la tech c'est information technology et communication services. C'est les simples. Je vous ai montré ça en début de vidéo. Reprenez si je vais trop vite. Donc, j'ai fait un classement selon PE Forward. Rappelez-vous, le PE Forward du S&P 500, c'est 19 actuellement et c'est sa moyenne des 10 dernières années. Donc, concrètement, sur le S&P 500, tous les PE Forward sous 19, c'est raisonnable, c'est pas cher. Regardez le top 12 en termes de market cap. Vous avez 10 sur le 20, non, le top 22, pardon. Je crois que j'ai mis top 12, top 22. Bah, vous en avez 10 sur les 22 qui sont pas chers encore sur le plan des fondamentaux. Et notamment le géant Micron. Micron dont je vous ai parlé plusieurs fois. Mais même Nvidia, un peu forward de 15. Oracle, un peu forward de 12. Micron, un peu forward de 5. Donc, allez, même Microsoft, c'est raisonnable avec un PE forward de 20. D'ailleurs, Microsoft avait un PE forward ultra raisonnable et a rebondi sur un support parfait. J'y viens, je vais vous les montrer dans un instant sur le plan technique, les GAFAM. Donc, pour le moment, eh bien, on a une valorisation raisonnable de ce top 22. En tout cas, parmi le top 22, il y en a 10 qui ont une valorisation raisonnable. Donc, là, c'était aussi pour vous rappeler que dans le secteur, dans ce qu'on appelle les GAFAM, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, alors Google, hein, Meta, Apple et Tesla, il y a que Nvidia qui est un pur player des semi-conducteurs. Les autres ont des activités cloud software, internet, cloud, plateforme, hardware, bon, auto-IA, d'accord, dans le domaine de la tech, lié à l'IA, mais pas forcément dans les semi-conducteurs. Et en fait, on s'est tellement concentré sur les semi-conducteurs qu'on a oublié tout le reste, et tout le reste, ils n'étaient pas du tout en bulle. Ils avaient même corrigé, donc ça a rebondi sur support, et ça a permis au S&P 500 de faire de nouveaux records, sachant que les résultats étaient solides. Donc si vous prenez justement les GAFAM, je vais aller chercher mon as d'accent sur le plan technique, alors... Bon, ça, c'est Micron qui a tenu son support, mais regardez, par exemple, Nvidia, tendance haussière bien construite, il n'y a pas de bulle ici. C'est haussier, tant qu'on est au-dessus du cumo weekly, c'est pas du tout en surachat et tout, c'est impeccable. La tendance haussière, tant qu'on est comme ça au-dessus du cumo, regardez Microsoft, regardez, le rebond parfait, là, c'était fin juin, regardez. Fin juin, on était sur ce support vieux de 5 ans. Énorme support pluriannuel à 350, ancienne résistance, breakout, ancienne résistance, je deviens support, je paye, soutenu par la moyenne mobile à 200 semaines, voilà. Et donc, bah, Microsoft a rebondi, et alors aussi parce que, justement, je viens de vous montrer son PE forward, en plus, ça c'est le PE forward après le rebond, le PE forward avant le rebond était pas cher, donc vous aviez un support technique, un PE forward raisonnable, égal, j'achète. Voilà. Donc, à ceux qui s'étonnent que le S&P 500 ait réussi à faire de nouveaux records historiques, bah c'est parce que les géants qu'il compose avaient de l'upside et ne sont pas du tout en hausse verticale. Alors, Meta non plus n'est pas du tout en hausse verticale. C'est même plutôt une phase de transition latérale qui se construit en attendant la 200 semaines. Apple a fait un nouveau record historique aussi la semaine dernière et reste aussi tant qu'il est au-dessus de son cumo weekly. Amazon a fait un nouveau record historique et reste aussi tant qu'il se situe au-dessus de son cumo weekly. Google, alors là, le mouvement est quand même plus vertical, mais la tendance reste haussière tant qu'on se situe au-dessus du cumo weekly. Donc, ben, pour le moment, eh bien, sur les GAFAM, les tendances de fond haussières sont préservées car les supports moyen terme restent préservés sur les GAFAM. Faut-il enfin revenir sur le secteur des logiciels qui drop, et ben je vous dis oui, chers amis, c'est du pain béni, c'est une opportunité. Regardez-moi le PE forward de Salesforce, le PE forward d'Adobe, un PE forward de 9. Ce sont des machines à cash. Elles se sont fait détruire en bourse depuis 5 ans, des baisses de 70%, parce que c'était pas sexy, c'était pas dans l'IA. Sauf que ce sont des machines à cash. Et maintenant, l'IA arrive sur les logiciels, sur les CRM, pour relancer la machine. Et donc, ce sont des opportunités. Moi, je vous dis oui, Salesforce et Adobe sont des opportunités. Où je vous dis oui, le secteur des logiciels est une opportunité parce qu'il est pas cher sur le plan des fondamentaux. Regardez Adobe depuis 2021. Adobe depuis 2021 a perdu 75%. 75% de baisse sur Adobe depuis 2021. avec une valorisation, un PE classique qui est revenu sur cet énorme support des 10, un price to sales qui est revenu sur cet énorme support, un A égale C. Alors, si vous êtes vraiment prudent, attendez qu'on dépasse à la hausse le Kumo Weekly du système Ishimoku. Mais moi, je dis oui en termes de valorisation, oui en termes de valorisation, le secteur des logiciels est à nouveau une opportunité et notamment Salesforce, CRM pour le ticker et Adobe, ADBE. Oui, c'est une opportunité sur le plan des fondamentaux. Le secteur des semi-conducteurs, le SOX, je vous rappelle à nouveau que plus que jamais, eh bien, il faut privilégier les replis de Micron car un PE forward à 5,80, c'est une action gratuite. Et oui, je suis en train de vous dire que Micron est gratuite après avoir pris 1000% en bourse. Mais d'un point de vue des fondamentaux, un PE forward de 5, c'est une forme de gratuité. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et le Kospi, faut-il revenir à l'achat sur le Kospi ? Le Kospi, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est la tech. La moitié plus même, quasiment 55% du calcul du Kospi, c'est deux actions. Samsung Electronics et SK Hynix. Je vous rappelle les trois leaders mondiaux de la mémoire vive IA. Micron, SK Hynix et Samsung. Vous en avez deux dans le Kospi. Et donc, oui, lorsque le Kospi va corriger comme ça de 50%, oui, c'est une opportunité lorsque le Kospi va corriger de 50%. Le Kospi qui nous a fait une correction massive, qui est passé de 9300 points à 5300 points, qui a rebondi sur sa moyenne mobile à 200 jours. Le Kospi qui est revenu rechercher le ratio de retracement des 50 et des 61,8 de toute cette phase de hausse. Et donc, pour moi, j'estime que on va avoir une stabilisation là entre le Kumo Weekly et les 61,8. Et donc, tout repli du Kospi entre 5000 et 5800 points, ça se paye. Tout repli du Kospi entre 5000 et 5800 points, ça se paye. C'est une opportunité. Et pourquoi c'est une opportunité? Parce que, regardez-moi ces PE forward ultra bas. Micron 5, Samsung 6,8, SK Hynix 6,8. C'est pas cher sur le plan fondamental. Et là, c'est revenu pas cher parce qu'il y a eu 40% de correction. C'est une correction qui a duré quelques semaines. Moi, dans les corrections court terme, je mets quelques séances à quelques semaines. Et donc, c'est une opportunité de se placer dans le sens de la tendance haussière de fond. C'est une opportunité de se placer dans la tendance haussière de fond. Rappelez-vous, je vous ai fait il y a quelques semaines une vidéo sur cette action qui m'intéressait et notamment au sein du Quantique. Au sein du Quantique, eh bien, je m'intéressais donc à l'action YongQ. YongQ, je vous en avais parlé, cette action YongQ. Eh bien, YongQ a eu un comportement intéressant. L'action YongQ est venue chercher ou s'est approchée donc de cette zone support ici. Et moi, j'estime donc que tout repli de l'action YongQ en direction de ce niveau des $30 est une opportunité. Donc là, il y a un début de rebond ici, court terme, qui est intéressant. Il y avait une situation de survente en données journalières. Il y a eu un petit rebond court terme. Pour autant, je ne suis pas encore certain que le point bas final ait été fait, mais ça montre qu'il y a de la résidence haussière, qu'il y a des acheteurs. Le point d'entrée parfait, je le situe toujours entre $27 et $30 sur YongQ. Et c'est vraiment un gros support pluriannuel. Ça me rappelle un peu celui que je viens de vous montrer sur Microsoft au niveau des 350. Et là, clairement, donc, je pense que c'est intéressant de se positionner avec un titre YongQ qui revient donc entre 27 et $30. Chers amis, S&P 500, quelle résilience, secteur de la tech US, quelle résilience. Voilà, j'ai voulu vous montrer qu'il y avait à cela des raisons fondamentales et une analyse technique qui, ma foi, est bien construite dans le sens de la tendance haussière de fond, avec des corrections court terme qui sont donc des opportunités. Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.